J'aimerais qu'on puisse ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Bien souvent, on demande au Seigneur qu'il nous parle, mais il y a un verset très important dans la parole qui est une vérité à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y faisons pas attention. Et on est tous dans le même bateau, si je puis dire. Dieu nous parle à tous, et bien souvent, on n'écoute pas ce que Dieu veut nous dire. Dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13, nous allons lire une histoire de Pierre. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu ». Mais celle des hommes. Et nous nous arrêtons là. Je ne sais pas si on réalise vraiment ce qui se passe dans la tête de Pierre. On a introduit ces chants par la notion de combat. Et on a un bel exemple de ce qu'est le combat spirituel. L'apôtre Pierre est le terrain d'un combat spirituel. Et le terrain même d'un combat entre Dieu et Satan. Ou alors, à très très peu de temps de différence, Pierre se retrouve ainsi à donner une parole qui vient de Dieu, et quelques minutes plus tard, il donne une parole qui vient du diable. On voit que l'apôtre Pierre se retrouve ainsi être l'outil entre les mains de Dieu, et ensuite l'outil entre les mains du diable. Comment est-ce possible? Dieu nous a fait avec un organe particulier, un organe qui est à la fois charnel mais aussi spirituel, qui s'appelle la conscience. Par cette conscience, le diable peut parler, parce que le diable y a accès, il est capable de semer des choses en nous, et par cette conscience, Dieu peut aussi parler. Est-ce qu'on considère toutes les fois où Dieu nous parle par notre conscience? Si Dieu a parlé par Pierre, ça veut dire qu'avant Pierre, il a reçu la parole à l'intérieur. Si le diable a parlé par Pierre, ça veut dire que Pierre a aussi reçu la parole à l'intérieur. Et à un moment donné, il se pose la question du choix. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Comment on fait le tri là-dedans? J'aimerais qu'on lise quelques textes parce que je vais parler de la conscience ce soir. Cette conscience qui doit être un guide, qui doit nous éclairer. Et j'aimerais qu'on puisse commencer par quelques versets dans la première épître de Paul à Timothée. Ce combat qu'a eu Pierre, c'est notre combat à tous. Je ne sais pas si on réalise, mais il y a des fois on peut parler à la place de Dieu sans même que nous nous en rendions compte. Mais il y a aussi des fois où on peut parler à la place du diable, sans même que nous nous en rendions compte. Jésus a eu le bon réflexe de discerner d'où venait la parole, ce qui dédouane Pierre en plus, parce que Jésus a reconnu la source. Arrière de moi, Satan. Je ne vous invite pas à dire ça à votre frère ou à votre sœur, en Christ, bien sûr. Mais il est important de constater que quand on sait de quelle source sont les paroles, finalement, on arrive à en voir dans les personnes qui nous parlent des vecteurs, des personnes qui, finalement, même si elles ont une responsabilité de leurs paroles, je ne veux pas enlever aux gens les responsabilités de ce qu'ils disent, mais néanmoins, ça nous aide à ne pas peut-être en vouloir à notre frère, à notre sœur, qui nous parle mal. Parce qu'on arrive à voir que c'est le diable derrière qui se sert de la personne. Et on voit que c'est le diable qui essaye de s'acharner contre nous. Ça nous aidera beaucoup, ça vous aidera beaucoup si vous apprenez à considérer ces choses. 1 Timothée, chapitre 1, et nous lisons le verset 5. D'ailleurs, on va lire à partir du verset 3. « Comme je t'y ai exhorté, à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. » Donc là, il vient de faire une recommandation. D'accord ? Verset 5. « Le but de cette recommandation... c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. » L'apôtre Paul va étayer ses propos, on ne va pas les lire, mais on va aller au verset 18. On voit l'importance parce que l'apôtre Paul insiste, il s'agit toujours de la même recommandation. Verset 18, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. » On voit là toute la supplication de Paul. Selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Selon ce que nous venons de lire ici, on voit une chose très importante, c'est que si on s'attache à autre chose que la parole de Dieu, on a tous une conscience. On est d'accord ? On va aller un peu plus loin dans la définition. Mais il y a une vérité qui est que si je m'attache à autre chose qu'à la parole de Dieu, je vais avoir une conscience tordue. Une conscience qui va dysfonctionner. Et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'ailleurs, ne savent pas qu'en faire de cette conscience. Et ça leur pose un gros problème de conscience. Il faut considérer la parole de Dieu. Alors la conscience, moi je la définis en deux volets. Et il y a la conscience qui guide. Pour cela, je vais citer un proverbe. Ne cherchez pas, peut-être notez-le si vous prenez des notes. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusqu'au tout au fond des entrailles. Ça, c'est la version second révisée. La version en français courant est un peu plus facile à comprendre. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de l'être. Vous voyez le lien avec les champs, c'est parfait. Ça, c'est la conscience qui guide. Ensuite, on a la conscience qui rend témoignage. Et ça, on est tous confrontés à cette tierce personne-là qui nous suit tout le temps et qui nous donne son avis, qui nous culpabilise, qui nous accuse, qui etc., etc. On la voit pas, mais on l'entend tout le temps. La conscience qui rend témoignage. Romains, chapitre 2, verset 15, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience... en rendent témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. » Donc on voit tout l'enjeu de l'importance de la conscience. D'ailleurs, il n'y a que nous, les humains, qui en sommes équipés. Je ne sais pas si vous avez vu des animaux. Ils n'ont pas de conscience, les animaux. Ils ne savent pas s'ils font bien ou mal. Un animal n'a pas conscience de bien, de mal. Un animal est logique, c'est tout. Un animal, certes, a un caractère, a une personnalité, a une volonté. Donc on voit qu'il y a quand même une dimension intérieure qui est réelle. une portée de chiens, vous allez voir que sur tous les chiots, ils n'ont pas tous le même caractère. C'est vrai. Hein. Mais l'homme a quelque chose en plus. On n'a jamais vu un écureuil prier. Si vous en avez vu un, dites-le moi, hein, mais moi j'en ai jamais vu. Hein. On n'a jamais vu un singe raisonner comme ça, en train de faire des calculs. Il y a une intelligence. Mais quant à raisonner, ou alors je vais dire, on n'a jamais vu un singe philosopher. Les animaux n'ont pas de notion d'éternité, d'infini, etc. On a quand même quelque chose en plus. D'où ça vient, ça? Ça s'appelle l'esprit. C'est ce que nous, les hommes, avons en plus des animaux. Alors, la conscience, c'est cet autre moi, justement, ce témoin extérieur qu'il a à côté de nous, qui a pour rôle de nous guider, ou alors de rendre témoignage par rapport à nous-mêmes. On va prendre quelques exemples pour la voir à l'œuvre. Premier exemple, Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas relire Genèse 3. Adam et Ève, à un moment donné, se retrouvent à prendre le fruit défendu. Et à ce moment-là, ils sont pris de peur, ils vont se cacher. Mais pas que ça. Ils ont l'idée de prendre des feuilles de figuier et de se couvrir. D'après vous, d'où ça leur vient cette idée? C'est la conscience. La conscience est née. D'où ça leur vient? Ils avaient quand même quelque part, quand ils ont connu qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se couvrent. Ça leur est venu de nulle part. Pourtant, le réflexe était bon quand même. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils se couvrent. Ils ne s'y sont pas pris de la bonne manière, mais il fallait que ça aille plus loin. Mais ils ont eu quand même le bon réflexe de vouloir se couvrir. Je ne sais pas si vous y avez déjà fait attention. Pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? On voit les deux facettes de la conscience. On voit la conscience qui guide, ils se couvrent, mais on voit la conscience qui accuse parce qu'ils ont peur. Alors ils vont se cacher. La conscience les jugeait. La conscience d'Adam et Ève les condamnait, leur faisant croire que Dieu allait vraiment aller contre eux, les punir lourdement, et ils ont eu peur de Dieu. On voit entre autres que l'action de Dieu, en quoi elle va consister? À réparer cette conscience défaillante. Parce que Dieu va faire miséricorde. Ils vont se rendre compte que Dieu a continué d'avoir des paroles douces à leur égard. Certes, ils vont subir les conséquences de leur péché, mais ils ne seront pas punis par Dieu. Ils ne seront pas maudits par Dieu. Pas du tout. La terre sera maudite, le diable oui, mais ni l'homme, ni la femme. Dieu va s'attacher à réparer leur conscience et ils vont se rendre compte que Dieu n'est pas à les attendre au coin pour les attraper et les juger. Non, Dieu va sacrifier un animal pour pouvoir les couvrir. Ils vont se rendre compte que Dieu est miséricordieux. Ils n'auront pas la punition qu'ils auraient dû avoir. Un autre exemple de la conscience, David. David, quand il a péché, il dit ceci: « Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. » Ça, on s'imagine tous très bien, mais c'est ta faute. Tu ne peux pas demander à Dieu pardon, t'en as fait trop, c'est pas possible. Où est-ce que t'es rendu là? Comment tu pourrais oser demander pardon à Dieu? C'est pas possible. T'es vraiment descendu trop bas. Vous l'avez déjà entendu cette voix, non? Moi, j'ai déjà entendu. Ça, c'est la conscience qui dysfonctionne. À un autre moment de sa vie, David a eu une conscience très affûtée. Peut-être qu'on peut le lire, ce passage, dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 5 et 6. Là, David est un peu plus jeune, comme quoi l'âge n'a rien à voir. 1 Samuel 24, versets 5 et 6. Je lis, après cela, David sentit battre son cœur, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel, loin de l'Éternel. » On voit là la conscience bien affûtée de David, qui, alors même qu'il ne fait que découper le pan du manteau, qui fait battre même son cœur, et cette conscience va guider David et va lui éviter de commettre un péché. Est-ce que vous sentez l'importance d'une conscience en bon état ? David était mal à l'aise par rapport à sa conscience, qui l'accusait, mais qui l'accusait justement. Un autre texte, je vais le citer. On va juste paraphraser l'histoire. Vous savez cette histoire avec les Juifs, la femme adultère ? Il ramène la femme adultère pour la lapider. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit ? Que celui qui a jamais péché lui jette en premier la pierre. Je vous lis ce qui est écrit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un pour commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on comprend que dans les évangiles, à un moment donné, ça chauffe entre Jésus et les Juifs. Il leur dit des paroles violentes et ils ne bougent pas d'un centimètre. Par contre, là, on a une affaire où Jésus parle à la conscience. Et là, il arrive à faire aux Juifs ce qu'il attend. Est-ce qu'on se rend compte à quel point la conscience est puissante ? Jésus parle à la conscience de ces Juifs qui ne vont pas lancer une seule pierre parce que Jésus savait comment faire pour faire par leur conscience les accuser. Jésus lui-même a eu une conscience. Alors qu'il est pressé par la foule, une femme le touche. Et je lis le texte. « Aussitôt, Jésus eut conscience. » Vous allez me dire, c'est une expression, mais quand même. Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» La conscience qui guide. Parce qu'il fallait à ce moment-là que Jésus parle. Il fallait à ce moment-là que Jésus révèle cette femme. Sinon, elle aurait été accusée d'avoir volé la guérison, je ne sais. Mais il fallait que par rapport à cette femme, Jésus puisse lui donner cette parole de consolation comme quoi elle a bien fait de venir le toucher. Quand le tentateur s'approche de Jésus, que fait Jésus ? Il le tente de diverses manières. Jésus parle, répond au diable, et sa conscience l'y aide, par un texte de l'Écriture. Et le diable fuit. Le diable ne résiste pas. Jésus savait d'où venaient les attaques. Il savait discerner quand le diable attaquait. Et il savait s'opposer. Il savait résister au diable. On a l'autorité pour résister au diable. Encore faut-il avoir une conscience en bon état. Donc on voit plusieurs choses. On a vu la conscience un peu mise en évidence. Maintenant, j'aimerais un peu plus m'attarder sur la conscience quand elle est déformée. La conscience quand elle est déformée par le péché. Et au même titre que Jésus a su se servir de la conscience pour éviter aux Juifs de lapider cette femme, croyez-moi que le diable sait aussi s'en servir de notre conscience, pour nous accuser, pour nous mentir, pour faire en sorte de nous faire prendre de mauvaises directions, rentrer dans des raisonnements. L'homme a la raison et la conscience pour lui. Et le diable sait très très bien nous faire faire des calculs, nous faire faire des raisonnements, des faux, nous faire poser des problèmes de conscience, nous accuser, ça, il sait très très bien jouer avec ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure que la conscience était un témoin qui rend témoignage de nos actes, de nos paroles, une conscience qui dysfonctionne sera donc un mauvais juge, qui va donc nous accuser à tort. Dans l'évangile de Marc, je vous propose de prendre ce texte. Marc, chapitre 10, Marc 10, versets 13 et 14. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. » Dans cette situation, on a une image qui est très très bonne du travail d'une mauvaise conscience qui juge mal les choses, en faisant un parallèle entre la conscience et le comportement des disciples. Des personnes bien intentionnées amènent des enfants à Jésus et les disciples font des reproches. Nous, des fois, nous venons aussi à Jésus et notre conscience nous fait des reproches. Comment oses-tu demander pardon après ce que tu as fait ? Ça fait 10 fois que tu fais la chose aujourd'hui et tu demandes pardon à Jésus ? Vous voyez le mauvais juge ? Le juge qui fait des reproches quand on s'approche de Dieu. Un autre exemple dans Marc, chapitre 10, toujours, verset 47. C'est l'histoire de Bartimée. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Là, c'est la foule que je vais comparer à la conscience. Et dans les deux cas que nous venons de lire, avez-vous remarqué ce qui fait changer d'attitude ? Les disciples ou la foule ? C'est une parole de Jésus. À chaque fois, retenez bien ça, c'est une parole de Jésus qui, à chaque fois, va calmer la conscience et va la remettre d'équerre. La foule retient Bartimée. Jésus dit « Appelez-le ». Hop là, et puis c'est terminé. « Ah, prends courage, il t'appelle. » La mauvaise conscience qui nous accuse pour de mauvaises raisons, on voit que la solution, c'est une parole de Dieu. Quand notre conscience, et là c'est, on peut le retenir, quand notre conscience nous accuse ainsi à tort, qu'est-ce qu'on en déduit ? C'est que la solution, c'est de la confronter à ce que dit l'Écriture. Devant l'Écriture, la conscience n'a plus rien à dire. Bien sûr, dans le cas où vous avez foi dans ce que dit l'Écriture, ça va de soi. On va le voir tout à l'heure. La solution à une accusation fausse de notre conscience, c'est une parole de l'Écriture. D'où la nécessité de la connaître. Maintenant, je vais parler du mauvais guide. On ne va pas lire le passage non plus, mais quand vous lisez Actes 26, versets 9 à 16, vous vous rendez compte de ce qu'est la conscience, le mauvais guide. Parce qu'on a l'apôtre Paul qui rend témoignage de sa vie, qui était certain, absolument certain, qu'il servait Dieu en persécutant les chrétiens. Et quand on voit les détails qu'il donne, on voit à quel point il était même zélé. Il servait Dieu de tout son cœur. Malheureusement, il était mal guidé. Il avait une conscience qui lui faisait faire n'importe quoi. Et au contraire, qu'il luttait même contre Dieu. Vous savez ce qui a arrêté ce mauvais guide ? Une parole de Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et voilà. L'apôtre Paul ouvre les yeux, écarquillé comme ça, parce qu'il se retrouve, il était dans l'erreur totalement, et une parole de Jésus va rétablir sa conscience. La conscience, le mauvais guide. Donc, que ce soit celle qui rend témoignage, que ce soit celle qui guide, C'est la même solution, une parole de Dieu. C'est Dieu qui rétablit la conscience. Maintenant, on a vu la conscience qui dysfonctionne. Maintenant, j'aimerais vous parler de la pourquoi est-ce si bon pour nous, même nécessaire, que nous ayons une bonne conscience. La première chose que je dirais, c'est que la conscience, c'est par elle. Donc, maintenant, vous pensez, c'est deux volets, le guide, celui qui rend témoignage. La conscience, c'est par elle que nous allons pouvoir grandir spirituellement. Et pour cela, on peut prendre l'Épître aux Hébreux. Je vais vous le citer, ne cherchez pas, parce que c'est la version parole vivante, je crois, ou parole de vie. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, et écoutez bien, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Donc cette conscience qui est là en nous, qui doit nous aider, il faut l'entraîner à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Autrement dit, si je reprends l'exemple de l'apôtre Pierre, s'il avait eu cette expérience-là, il aurait pu donner la parole que Dieu lui avait dit, mais il aurait su discerner la mauvaise parole venant du diable et il l'aurait rejetée et il ne l'aurait pas prononcée. La conscience qui s'exerce à discerner entre ce qui est bien de ce qui est mal, à discerner par rapport à mes pensées. Cette conscience mène à discerner dans mes pensées d'où proviennent ces pensées, ces raisonnements. Il m'amène où ? Il m'amène à m'inquiéter, il m'amène à être jaloux, il m'amène à ceci, cela. Mais le raisonnement que j'ai, on a eu une conversation il y a peu de temps avec des personnes, et la conclusion était celle-ci, où t'amènent tes raisonnements ? Si tes raisonnements t'amènent à faire quelque chose qui est contraire à la parole, ça veut dire que sa source, elle vient du diable, tout simplement. Si tes raisonnements t'amènent à des fruits qui vont plaire à Dieu, alors la source vient de Dieu. Une conscience qui nous amène à nous inquiéter, d'après vous, elle vient de qui ? Elle vient du diable, parce que dans la parole, c'est écrit « ne vous inquiétez de rien ». Donc si, par mes raisonnements, j'aboutis à des inquiétudes, ça veut dire que ça vient du diable. Comme ça vient du diable, si je lui résiste, qu'est-ce que je fais ? Ces pensées-là, je les mets à la poubelle. Ces raisonnements, je les mets à la poubelle. Je n'en tiens plus compte. Voilà le discernement entre le bien et le mal. Voilà à quoi sert notre conscience, parce qu'ainsi, débarrassée de ces raisonnements inutiles, eh bien, bizarrement, je vais me retrouver dans le repos. Je vais retrouver la paix. Parce que, m'appuyant sur la parole de Dieu, je suis capable de rejeter ces choses quand j'ai pu discerner d'où elles venaient. La conscience, elle nous est nécessaire parce que Dieu, je l'ai déjà dit avec Pierre, c'est l'exemple, Dieu peut nous parler par elle. La version top du psaume 16 au verset 7 dit ceci, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. » Donc dans notre sommeil, Dieu peut nous parler. Mais je ne dirais pas que dans notre sommeil. Dans combien de circonstances de la vie, ayant connaissance de ce que Dieu dit dans sa parole, des versets vont nous venir à l'esprit. C'est la conscience qui va nous les ramener aussi. C'est l'organe qui est utilisé par Dieu, par le Saint-Esprit, parce que nous sommes tous dotés de la conscience. Ils nous viennent à l'esprit. Quand on dit cela, ça veut dire que c'est la conscience qui travaille. Le témoin qui nous rappelle le verset. La conscience, elle est nécessaire parce qu'elle est un vrai guide quand elle fonctionne bien. Et c'est par elle que la parole de Dieu va nous éclairer. Là, je vous citerai un autre verset, Proverbe 20, 27, ce que j'ai dû citer tout à l'heure. « La conscience est une lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. » Ta parole est une lumière à mes pieds. Moi, je n'ai pas bien cité, mais c'est pas grave. Est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je crois que c'est vraiment, ça vient de Dieu que j'aborde ce thème aujourd'hui, quand je considère ce que nous venons de chanter. Je crois qu'il nous faut mesurer l'importance de cette conscience aussi qui nous guide. Ces versets qui vont revenir par cette conscience qui fonctionne, bien sûr. Avoir une bonne conscience, c'est aussi nécessaire parce que c'est par elle que nous allons être en paix. C'est tout le problème de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils se bagarrent toute leur vie avec leur conscience. Ils se bagarrent toute leur vie avec leur conscience, qu'ils leur reprochent X, qu'ils leur reprochent Y. Et ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire, ils n'ont aucune base pour contrer cette conscience qui les accuse faussement sans cesse. Ils ne savent rien faire pour prendre les décisions qui vont bien, parce que leur conscience qui est déficiente les guide toujours selon des choses qui sont mauvaises. L'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 14, verset 22, je vous le cite dans la version Parole vivante. « Tu as une ferme conviction personnelle, c'est bien. Garde-la pour toi devant Dieu. Mais ne la brandis pas devant les autres. Sois content de pouvoir prendre tes décisions sans être troublé par des scrupules et sans avoir besoin de tranquilliser ta conscience. » J'aime bien la notion de tranquilliser. Vous savez, on vend beaucoup de tranquillisants aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas là. La conscience ne fonctionne plus. Ou alors elle fonctionne très mal. Au contraire, elle fonctionne beaucoup, mais mal. Oui, heureux celui qui ne se juge pas condamnable dans le parti qu'il adopte. Voilà ce que dit Paul. Autrement dit, être en paix avec sa conscience, c'est très important. Et le seul moyen d'être en paix avec elle, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. On ne pourra pas être en paix avec notre conscience autrement. Parce que notre conscience ne pourra être pure qu'à travers la parole de Dieu. C'est aussi le seul moyen pour avoir une conscience qui fonctionne bien. C'est la parole de Dieu. Et une fois que je suis en paix avec ma conscience, je peux avoir... Il y en a, ils ont des milliers d'euros, mais ça ne va pas là, et ils ne sont pas bien. Et ils ont besoin de tranquillisants, de somnifères pour dormir, alors que je dirais qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent, ils pourraient aller où ils voudraient, s'isoler sur une île paradisiaque, j'en sais rien, mais ça ne va pas là. Quand il y a ce combat à l'intérieur qui ne cesse pas, qui est continuelle, eh bien, on peut chercher, mais c'est insupportable d'avoir une mauvaise conscience. C'est insupportable. Pourquoi les Juifs ? Pourtant, les Juifs se sont bien opposés à Jésus. Je vous poserai la question, pourquoi les Juifs se sont-ils laissés convaincre de ne pas lancer une seule pierre contre cette femme ? Parce que se battre contre sa conscience, c'est insupportable. Et là où ta conscience t'accuse, alors fais ce qu'il faut. Soit tu lui donnes une parole de Dieu parce que l'accusation est fausse, ou soit tu te reprends et tu règles le problème. La conscience, quand elle est pure, elle nous garde par rapport à la foi. Dans 1 Timothée, nous l'avons lu en introduction, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. La conscience et la foi, forcément, ça va ensemble. Parce que pour avoir une conscience en bon état, il faut croire dans la parole de Dieu. Donc le lien est tout fait. une conscience pure, comme David, on l'a vu, nous garde de faire le mal. Et c'est cette conscience qui va nous aider à ne pas faire le mal. C'est elle qui va nous conduire selon les voies du Seigneur. Quand on s'apprête à, imaginons, un jeune qui tombe amoureux d'une jeune fille qui ne connaît pas Dieu, qui est contre lui, si la conscience est en bon état, les versets qui parlent de ne pas aller avec une personne qui ne connaît pas Dieu, je ne les ai plus en tête, mais ils y sont. Ne te mets pas sous un joug étranger. Pourquoi irais-tu voir une femme étrangère? Enfin bref, il y en a plusieurs. Eh bien, ces versets remontraient. Et cette personne qui est droite, qui écouterait sa conscience, serait préservée de prendre une mauvaise direction, de faire un mauvais choix. Grâce à une conscience pure. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais que quand cette conscience est pure, ainsi, et qu'elle nous rappelle les versets bibliques quand il faut, ne trouvez-vous pas que c'est le moment où la parole de Dieu devient vivante? La conscience est devient dans ce cas-là le prolongement même de la parole de Dieu, parce que Dieu sait s'en servir à sa guise pour nous rappeler les versets, pour nous rappeler les paroles de Dieu qui vont nous aiguiller, qui vont nous reprendre, et toujours selon la parole de Dieu. Et cette conscience-là nous aidera à marcher, à progresser, nous aidera à ressembler toujours un peu plus à celui que nous aimons. J'aimerais juste évoquer, je l'ai sous-entendu plusieurs fois, comment on restaure une conscience qui est défaillante. Le premier verset que je citerai, c'est Romains 10, 17, qui dit ceci: « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Dans tous les cas, c'est toujours une parole de Dieu. C'est toujours une parole de l'Écriture qui nous permet de remettre, de forger la conscience, de la mettre d'équerre, comme je dis. C'est ainsi qu'à travers la parole de Dieu, notre conscience deviendra de plus en plus pure. Mais vous comprenez bien sûr que le lien avec la foi est important. Alors, on va faire un peu de mise en pratique. Est-ce que peut-être des fois tu te sens mal aimé? Il y a un mal-être à l'intérieur de toi. Ta conscience te dit que personne ne t'aime. Alors un jour, tu liras dans la parole, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc cette conscience qui te dit que personne ne t'aime, eh bien elle fait fausse route. Vous prenez les ciseaux et je claque, vous coupez ça. Est-ce que tu as perdu la notion du bien, du mal, et tu ne sais pas comment Dieu te perçoit? Par exemple, tu es dans le péché, et cette conscience qui t'accuse et qui te dit « Non, t'en as fait trop, il ne peut pas te pardonner. » Et là, vous lisez la parole et vous tombez sur Romains 5, 8 qui dit ceci: « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ah, donc c'est bon. Donc ma conscience, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Allez, on dégage. Et au fur et à mesure qu'on confronte notre conscience à la parole de Dieu, on la forme et elle devient pure. Est-ce que ta conscience te pousse sans cesse à t'inquiéter, à raisonner par rapport au lendemain? Dieu lui-même te commande de ne pas t'inquiéter. Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu qui vient, pourquoi? Ben, ayant mis notre conscience de côté, qui nous accuse à tort et qui nous fait nous inquiéter pour rien, eh bien la paix vient, parce qu'on a coupé ce qu'il fallait couper. Peut-être que tu te sens perdu et tu ne sais même plus comment être agréable à Dieu. Tu ne sais plus comment te diriger. On l'a lu, on l'a chanté, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, en se dirigeant d'après la parole, logiquement, je devrais prendre de bonnes directions. Un autre texte nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà des versets qui peuvent nous aider à nous orienter. Est-ce que peut-être même que tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, au fait ? Ta conscience te reproche sans cesse et elle t'accuse. Un autre verset que j'ai noté, c'est ceci, Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc Dieu, quand il nous dit ça, on voit qu'il est prêt à tout nous pardonner. Et c'est même pas à cause de nous. C'est parce que c'est à cause de lui. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il a un amour éternel, infini. Et c'est à cause de lui que nous sommes pardonnés de nos péchés. C'est à cause de lui que nous pouvons nous approcher ainsi. David écrit aussi, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. » Le texte est clair. Si on croit la parole, la conscience, on va vite la forger à la lecture seule de la parole. J'aimerais que cette méditation vous incite à lire la parole, pour que vous puissiez commencer ce travail de purification de votre conscience. J'aimerais juste dire que si tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner, au regard des versets que nous venons de lire, c'est de l'orgueil. Si tu crois que tu ne peux pas être pardonné par Dieu, ça veut dire que tu crois que Dieu n'est pas capable de pardonner ton péché qui est trop grand pour Dieu. Ça veut dire que tu considères que Dieu a un bras trop court pour te sauver, pour te tirer de la fosse. Ça veut dire que tu te crois trop loin, ça veut dire que tu te crois supérieur à Dieu. C'est de l'orgueil. Il n'y a personne qui ne peut être pardonné de son péché. Pourquoi, d'après vous, tant de personnes détestent le silence ? À cause de la conscience qui fait la guerre. La conscience sans cesse nous accuse. Cette fausse conscience, celle qui ne travaille pas bien. Pourquoi tant de personnes sont sans cesse dans l'activisme ? Pour ne pas penser, pour ne pas avoir affaire toujours à cette conscience. Parce que moins on y pense, et mieux c'est. Mais quand on a une conscience restaurée, quand on a une conscience pure, on se délecte du silence. On apprécie le silence. On aime la paix de Dieu dans le silence. On est heureux dans le silence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de musique. Mais vraiment, on l'apprécie. Moi, je sais que je l'apprécie beaucoup. La conscience en deux volets, le guide et le témoin. Pour restaurer mon mauvais guide, il y a la loi de Dieu. Pour restaurer mon mauvais juge, il y a la grâce de Dieu. Comme ça, tout va bien. Mon mauvais guide, il y a la loi qui permettra de recadrer les choses. Et quand elle m'accuse un peu trop fort, on sait qu'il y a la grâce de Dieu. Donc Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait. La seule chose qu'il faut considérer, c'est la foi. Est-ce que je crois dans cette parole de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à tenter l'expérience de croire les paroles que je lis ? Est-ce que je suis prêt à tenter l'expérience que de considérer ces paroles comme étant des paroles qui vont vraiment m'aider ? Des paroles qui vont m'aider à faire ce travail de purification de ma conscience. Je termine sur quelques versets. Comment on peut la conserver, cette bonne conscience ? Et là, je citerai Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je m'approche de Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus je fais de l'Éternel mes délices et plus ma conscience est conservée dans sa pureté. Et plus ma conscience devient cet outil qui me permettra, entre autres, de résister au diable, d'un côté, et d'entendre la voix de Dieu, qui me parle si souvent. Mais ma conscience est tellement embrouillardée que je ne suis plus capable d'entendre la moindre parole. Je ne suis plus capable de discerner ce qui vient du diable, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de moi. Celui qui a cette conscience pure arrivera à avoir du discernement. Le but de cette recommandation, Timothée, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. L'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de la foi et des œuvres pour dire que les deux vont ensemble, mais la foi et la conscience aussi. Par la foi, je peux purifier ma conscience, mais par ma conscience, je peux garder ma foi. Parce que la parole de Dieu prend vie en moi. J'aimerais qu'on puisse... Est-ce qu'on demande au Seigneur qu'il nous aide à faire le tri ? Est-ce qu'on demande au Seigneur qu'il nous aide à considérer ? Peut-être que dans ton cœur, tu n'as jamais fait attention à quel point c'était important. Quand vous lisez les Actes, quand vous lisez les lettres de Paul, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'il attachait une importance toute particulière à avoir une bonne conscience. Cette conscience qui nous permet de rester en paix. Cette conscience qui nous permet de vivre heureux. Parce que quand on est réconcilié avec sa conscience, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de tranquillisant, vous n'avez pas besoin de somnifère, ça c'est clair. Parce qu'on est dans la paix. Peut-être que cette conscience, tu ne l'as pas. Peut-être que cette paix de Dieu, tu ne l'as pas. Au regard des versets que j'ai lus, si tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, comme le dit la parole, tu peux être pardonné. Si seulement tu t'approchais de lui avec un cœur sincère et vrai, demandant pardon au Seigneur, alors tu pourrais obtenir le pardon de tes péchés en considérant cette parole. Seigneur Jésus, nous sommes tous là devant toi. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous éclaire vraiment, qui nous éclaire, qui nous apprend, Seigneur, à maîtriser cette conscience, Seigneur, contre laquelle parfois on se bagarre. Seigneur Jésus, cette conscience, c'est toi qui nous l'as donnée pour notre bien. Tu as voulu ainsi qu'on ait cette conscience parce que c'est le moyen par lequel nous pouvons être en communion avec toi. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir tes paroles. C'est le moyen par lequel nous pouvons nous édifier nous-mêmes. C'est le moyen par lequel ta parole prend vie en nous. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides, les uns et les autres, à purifier notre conscience. Aide-nous, Seigneur Jésus, à combattre ces faux raisonnements. Aide-nous à combattre ces fausses accusations, ces mauvaises directions, en les confrontant avec ta parole. Je te prie, Seigneur, pour celui, pour celle qui n'a pas pris à cœur jusqu'à aujourd'hui de lire ta parole, qu'il puisse le faire, qu'elle puisse le faire, pour qu'ainsi elle puisse purifier sa conscience. Seigneur, bénis-nous, et je te demande ta grâce, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse appuyer sur chacun de nos cœurs l'absolue nécessité d'avoir une conscience pure. Parce que c'est avec cette conscience pure que nous pourrons grandir, être en paix et être auprès de toi un jour. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, Amen.